Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? Ah, super. Alors, je voudrais déjà dire un grand merci. Je suis très content, très heureux de pouvoir être là avec vous. C'est toujours une joie pour moi. La dernière fois, ça devait être il y a 1 an et demi à peu près. Et c'est toujours une joie de voir cette assemblée, de voir des anciens partenaires de basket, des donateurs aussi qui soutiennent mon ministère, de voir aussi Philippe, et je te remercie pour l'invitation. En tout cas, c'est vraiment une joie de pouvoir être là et de partager ce passage. Alors, est-ce que je peux commencer avec une petite confession? Une petite. C'est que lorsque j'ai vu Philippe et qu'il m'a demandé s'il était possible que je vienne à cette date-là, je lui ai demandé tout de suite, merci beaucoup, je lui ai demandé tout de suite s'il était possible de savoir quelle était la référence. Alors, il m'a dit, alors on va commencer une série sur Marc. Je ne sais pas si tu te souviens, quand tu m'as donné la référence, j'ai dit, d'accord. Est-ce que ce ne serait pas possible d'avoir le texte juste après? Mais vraiment juste après. Et je pense que je n'ai pas été très très convaincant, puisque finalement c'est le texte qui était prévu dès le début. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le texte qui est juste après est un texte que j'aime vraiment beaucoup et certainement celui que j'ai le plus prêché. Et donc je m'étais dit, bon, bah, la prédication est déjà toute faite. Mais le Seigneur en a décidé autrement et je dois avouer que je suis très reconnaissant parce que le texte qu'on va voir maintenant, je ne l'ai jamais prêché. Jamais. Mais ça a été une joie pour moi de l'étudier, de le creuser. Et mon souhait et ma prière, eh bien, c'est que je puisse partager tout ce que le Seigneur m'a montré au travers de ce passage-là en particulier. Et j'espère que ce sera un encouragement pour nous de nous rappeler que toute la parole est bonne. Pas juste Marc, chapitre 2, versets 13 à 17. Mais toute la parole de Dieu. Et que cela soit un encouragement pour nous, la parole de Dieu. Et sa présence dans nos vies. Comme on l'a chanté, je remercie le groupe de louanges. Oui, toute sa parole. Vous savez, souvent, j'aime bien réfléchir aux choses que le monde aime bien et j'essaye de tracer un trait pour pouvoir me dire, mais en fait, ce que les gens ils recherchent, c'est pas ça. En fait, c'est la présence de Dieu. Et je m'amuse à faire ça avec pas mal de choses. Et je me suis amusé à réfléchir avec les réseaux sociaux. Voilà, vous savez que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place aujourd'hui dans notre vie. En fait, je me suis rendu compte que si vous êtes une entreprise, vous devez être sur les réseaux sociaux. Ben oui. Pour être au contact de votre clientèle. Si vous êtes un homme politique, vous devez être sur les réseaux sociaux pour être au contact de vos électeurs. Si vous êtes un influenceur, vous devez être sur les réseaux sociaux pour être au contact de votre communauté. Eh bien, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être au contact du plus grand réseau social qui existe, son Église, basée sur sa parole à lui. Au contact de la plus grande communauté, la belle communauté de l'Église, basée sur sa parole. Et j'espère que ça sera un encouragement pour nous à toujours nous rappeler que la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus important et que toute la parole de Dieu est bonne pour nous éduquer, nous reprendre, nous encourager, nous édifier, nous émerveiller. Et j'espère que c'est ce que nous verrons et nous vivrons ensemble. Seigneur, je te prie que je puisse tout simplement être un outil entre tes mains pour pouvoir servir mes frères, mes sœurs, pour pouvoir servir ton Église ici à Saint-Maur. Aide-nous à être émerveillés par Jésus-Christ. Aide-nous à ne jamais être lassés de lui, jamais être lassés de l'Évangile, et jamais être lassés d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que le chapitre 2 fait suite au chapitre 1. De Marc. Ça va? Pour l'instant, vous arrivez à suivre? En fait, j'aime beaucoup l'évangile de Marc parce que j'ai toujours l'impression de voir un feuilleton qui va à 300 à l'heure. Vous n'avez jamais fait attention à ça? On a l'impression que les événements s'enchaînent les uns après les autres. Des fois, on se dit, il faudrait reprendre un petit peu son souffle là, un petit peu. Dans le chapitre premier, rien que le chapitre premier, on a vu Jésus être tenté, choisir ses premiers disciples, guérir des personnes possédées. Guérir la belle-mère de Pierre, passer une nuit à guérir toutes sortes d'infirmités de personnes possédées à nouveau, prêcher dans toute la Galilée, guérir des lépreux, prêcher dans les lieux déserts. C'est que le premier chapitre. Waouh! Et on peut comprendre pourquoi est-ce que la renommée de Jésus a commencé à grandir. En fait, Jésus a fait des choses absolument extraordinaires qui montre des choses très intéressantes. En fait, on a vu dans le premier chapitre que Jésus est celui qui a une autorité extraordinaire dans son enseignement. On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme lui. Jésus est celui qui a autorité devant les esprits impurs. Il chasse les démons. uniquement par sa parole. Et Jésus a autorité aussi sur la maladie. On amène des malades à Jésus et il est guéri. Et la renommée de Jésus grandit. Mais le cœur de tout cela, ce ne sont pas juste les miracles qu'il fait, mais la raison pour laquelle il les fait. Il est venu sauver le monde et les miracles ne font que témoigner de qui il est. Tous ces miracles ne font que témoigner de qui il est. Son amour, sa patience, sa puissance, tout ça témoigne de la nature de Christ et tout cela pointe vers sa personne et son autorité, et on le verra tout à l'heure, parce qu'il est Dieu. Et on découvre dans notre passage du jour que Jésus a autorité, non pas seulement sur les démons, non pas seulement sur la maladie, mais qu'il a autorité pour le plus grand problème de l'humanité. Il a autorité pour donner le pardon. Pour donner le pardon de Dieu, le seul moyen qui nous permet d'être sauvés. Si vous deviez repartir avec une seule chose, ce serait de nous rappeler que Jésus est le seul à avoir l'autorité pour pardonner les hommes qui ont foi en lui, car il est Dieu et il répond ainsi au plus grand problème de l'humanité. Christ n'est pas juste venu faire des miracles, il est venu pour accorder le pardon de Dieu à ceux qui placent leur confiance en lui. Et je vous propose qu'on puisse regarder ce passage qu'on a lu tout à l'heure à travers de deux grandes parties. La première, il pardonne ceux qui placent toute leur confiance en lui, les versets 1 à 5. Et ensuite, on verra que Christ a l'autorité pour pardonner. Ce n'est pas seulement qu'il souhaite pardonner, mais il a également l'autorité pour pardonner. Oui, Christ est celui qui pardonne ceux qui placent toute leur confiance en lui. Mais j'ai commencé déjà par le tout début. Souvent, on a l'habitude de passer certains passages, dans certains passages, en pensant qu'il n'y a pas quelque chose à prendre pour nous, quelque chose qui peut nous encourager, quelque chose qui peut nous édifier. Et pourtant, déjà, dans les deux premiers versets, il y a des choses merveilleuses à voir. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Vous vous souvenez quand je disais que le chapitre 1, on a vu comment est-ce que la renommée de Jésus n'a pas cessé de grandir avec tous les miracles qu'il a pu faire. Il revient à Capernaum, on apprend qu'il est là, donc inévitablement les gens se rassemblent à l'endroit où il se trouve parce qu'ils veulent le voir. Celui qui fait des miracles, celui qui chasse les démons, celui qui chasse la maladie. Il ne faut pas longtemps pour que les gens se retrouvent là où il est. Et lui, il prêche. Et lui, il annonce la parole. On voit là, à ce moment-là, que Jésus se focalise sur ce qu'il y a de plus important. Et ce n'est pas d'accomplir des miracles, mais d'annoncer la bonne nouvelle. D'annoncer l'évangile. Que le royaume de Dieu est proche, qu'il est temps de se repentir et de croire que cette bonne nouvelle qu'il annonce est vraie. Vous savez, dans mon ministère, souvent je me dis que je passe un petit peu trop de temps à gauche et à droite. Qu'il y a des tas de choses que je n'aurais pas à faire, mais que je devrais toujours me concentrer sur ce qui est important, l'annonce de la bonne nouvelle. La tâche première pour moi, comme pour vous, et de nous rappeler que le plus important, c'est cette bonne nouvelle qui a changé nos vies, et que nos églises doivent être centrées sur cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle doit être au centre de nos vies, au centre de nos familles, au centre de nos programmes, et non pas un accessoire dans nos vies que nous rajoutons juste pour nous rappeler que nous sommes une église chrétienne. Si nous perdons cela, nous perdons également notre saveur, nous ne sommes plus l'église. Mais en gardant cela, nous sommes l'Église transformée par l'Évangile, en plaçant toujours cette bonne nouvelle au centre. De placer cette bonne nouvelle au centre, lorsque je sers, pourquoi est-ce que je sers? Je sers celui qui a tout donné pour moi. Et je le sers par reconnaissance, à cause de l'Évangile. Pourquoi est-ce que nous apprenons à nous pardonner les uns les autres? Parce que j'ai été pardonné par Dieu. et que maintenant je suis appelé à pardonner mes frères et sœurs et à montrer au monde ce que cela veut dire. Pourquoi ? À cause de l'Évangile. Pourquoi est-ce que nous annonçons jour après jour, semaine après semaine, la bonne nouvelle autour, auprès de nous, auprès des personnes qui ne connaissent pas encore Christ ? Parce que c'est lui qui sauve. Il est la bonne nouvelle à cause de l'Évangile. Pourquoi est-ce que vous payez votre pasteur ? Pour qu'il vous annonce sans cesse l'Évangile. Pour que vous grandissiez, que vous soyez édifiés dans l'Évangile. Toutes nos activités sont soumises à l'Évangile et soutenues par l'Évangile. Et notre motivation est l'Évangile. Et Christ annonce l'Évangile. L'Évangile qui sauve. Et maintenant, il va aussi montrer un exemple concret de l'Évangile dans la vie d'un homme en accordant son pardon. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Waouh ! Nous avons un paralytique transporté par ses quatre amis. Cet homme est juste dépendant de la bonne volonté et de l'amour et du soin de ces quatre hommes qui l'aident. Mais il découvre qu'il n'y a plus de place pour voir Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver à Disneyland. J'y suis allé quelques fois. Et les souvenirs que j'ai, ce ne sont pas les attractions. Le souvenir que j'ai, moi, c'est la queue que j'ai faite pour faire quelques attractions. Qui voit ce que je veux dire ? Ah, donc je ne suis pas le seul. Et vous savez qu'il y a la queue, et que même la queue que vous voyez, ça se trouve, c'est que le début de la queue. Parce qu'une fois que vous rentrez dans l'attraction, il y a à nouveau une autre queue. Et je vois des personnes qui sourient, parce que c'est vrai. Et là, dans notre cas, il n'y a plus de place. Les gens sont partout. Et qu'est-ce que font ces quatre hommes en accompagnant le cinquième ? Ils coupent la file. Ils coupent la file. Ça ne se fait pas, les amis, surtout pas en France. Vous avez remarqué ? À votre caisse, ça ne se fait pas de couper la file. C'est mal poli. Sauf s'il y a une urgence. Sauf si vous êtes quelqu'un d'important. S'il y a une urgence ou si vous êtes quelqu'un d'important. Et là, les amis, il y a une urgence. Une urgence que cet homme puisse rencontrer Jésus-Christ, qu'il puisse le voir, qu'il puisse être à son contact à cause de son besoin. Vous savez, il y a quelques années, je me suis fracturé les deux bras en même temps en Italie. Les deux. C'est véridique, hein, les deux. Et je me souviendrai toujours, je ne parle pas italien, mais je me souviendrai toujours quand je suis arrivé aux urgences, il y avait 7 ou 8 personnes devant moi. Mais au moment où elles m'ont vu, elles ont fait... En gros, ils m'ont dit, je pense que toi, tu as vraiment besoin de voir le médecin. Et là, ça peut vous dire à quel point j'étais dans un sale état. Cet homme a besoin de voir Jésus. Pour ses amis, il est important qu'il voie Jésus, quoi qu'il en coûte, et il ne se laisse pas démonter par les circonstances. Et il décide de faire passer leur ami, non pas par la porte, mais par le toit. Moi, ça ne m'est jamais arrivé qu'on arrête une prédication en passant par le toit, ou même qu'on arrête ma prédication parce qu'on veut me voir, mais là, celui qui veut voir, c'est Jésus. Il compte sur Jésus. Et quelque part, ils manifestent leur foi, ils manifestent leur confiance en Jésus que cet homme peut guérir leur ami. Ils ont confiance que leur ami ressortira en marchant. Essayez de vous imaginer tous les efforts qu'ils ont dû faire pour retirer le toit, passer leur ami. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas l'intention de le reprendre pour le remonter. Parce qu'ils ont la confiance qu'il repartira en marchant. Qu'il remarchera. Et leur foi se manifeste par leur persévérance à voir Jésus. Une confiance totale en Jésus que lui seul peut guérir. Jésus est la clé. Jésus est la clé. À chaque fois que je parle de clés, ça me fait penser en ce moment à ce qui s'est passé pour ma famille et moi cet été. On a commandé un cadeau pour mon fils. On était dans une maison qui n'était pas encore rénovée, assez vieille. On nous a prêté cette maison-là. Par contre, impossible d'avoir accès à la boîte aux lettres. Et je commande un cadeau pour mon fils et je me souviens que j'avais mis dans les commentaires « Surtout ne mettez pas dans la boîte aux lettres ». J'avais écrit « Ne mettez pas ». J'avais même écrit « Lancez dans le jardin, c'est pas grave ». À votre avis, où est-ce qu'ils ont mis le cadeau ? Dans la boîte aux lettres ! On a cherché des clés, on a trouvé plein de clés dans la maison, avec différentes formes, etc. On a cherché pas. Et à chaque fois que j'essayais, c'était pas la bonne clé. Et quand j'étais dans la rue, parce que la boîte aux lettres était dans la rue, je voyais les gens qui passaient, qui me voyaient en train d'essayer d'ouvrir la boîte aux lettres. Et je me disais, pourvu qu'ils pensent pas que je suis un voleur ou un truc comme ça. Et j'ai un voisin, pour vous dire, qui est venu avec une caisse de clés. Il a dit, écoutez, j'ai cette caisse de clés, je sais pas trop quoi en faire, on va essayer. Et j'ai dit, oui, on va essayer. On a essayé une cinquantaine de clés, mais je savais au fond de moi qu'il n'y aurait pas la bonne clé. Et je savais qu'il y avait une seule personne qui pouvait avoir cette clé. Le facteur. J'ai attendu le facteur plusieurs jours. Et on l'a vu arriver le dernier jour avant notre départ. Genre une ou deux heures avant qu'on parte, un truc comme ça. Et je me souviendrai toujours quand j'ai vu cette voiture arriver et s'arrêter devant le portail. Ça y est ! Il est là ! Il est là ! Et j'ai couru, j'ai dit, s'il vous plaît, partez pas, partez pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? S'il vous plaît, je sais que vous avez la clé qui ouvre ici. Il a fait, bon, on va essayer. La première clé, il la met dedans, il l'ouvre. Il a ouvert. Il a la clé. Jésus a la clé à notre problème. Personne d'autre. Voilà pourquoi il est important que les amis amènent cet homme aux pieds de Jésus. C'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul. Et nous sommes convaincus, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et nous avons découvert cette vérité, nous voulons aussi que cette vérité soit connue de nos amis. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager au travers de ce texte-là. Peut-être que vous essayez d'annoncer l'Évangile autour de vous depuis des années, auprès des mêmes personnes peut-être. Peut-être qu'il y a de la moquerie, peut-être que vous avez invité une cinquantaine de fois des personnes à venir ici et semaine après semaine, vous avez ce message qui vous dit « Oh, désolé, je ne viendrai pas, je suis trop fatigué. » Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression d'avoir des crampes parce que vous portez ces personnes-là. Et je voudrais vous encourager à vous dire qu'à chaque fois que vous faites ça, que vous manifestez votre désir de voir d'autres personnes rencontrer Jésus-Christ, vous ressemblez à ces quatre hommes. À chaque fois que vous témoignez fidèlement, vous ressemblez à ces quatre hommes qui persévèrent malgré les circonstances et qui veulent qu'une seule chose, c'est que ceux que nous aimons puissent un jour être aux pieds de Jésus-Christ, le rencontrer et découvrir qu'il est celui dont nous avons besoin. Donc soyez encouragés à persévérer et demandons au Seigneur de nous aider à persévérer. Demandons au Seigneur de nous aider à continuer de prier. Demandons au Seigneur de nous aider à être originaux. Vous avez vu ? Passez par le toit. Si la porte est fermée, eh bien passons par autre chose pour annoncer l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. Mais soyez encouragés. Soyez encouragés à chaque fois que vous annoncez, que vous témoignez, vous ressemblez à ces quatre amis. En attendant le jour où nos bien-aimés entendront la voix de Jésus-Christ dire « Viens !» dire « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cet homme se trouve devant Jésus. Cet homme certainement attend une guérison physique. Et ce que l'on a, c'est dans la douceur de Jésus, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, je pourrais m'arrêter là, mais en fait, quand on regarde le texte et qu'on regarde le contexte de ce texte-là, on se dit, mais en fait, ils sont surtout venus pour une guérison corporelle, une guérison physique. Oui, c'est ça vraiment qui est important pour cet homme. D'être guéri. Une fois qu'il sera guéri, qu'il pourra marcher, il pourra vivre comme tout le monde. Il pourra faire énormément de choses. Et pourtant, Jésus est en train de dire qu'il est pardonné pour ses péchés. Il n'est pas en train de dire « Je te guéris physiquement de ton infirmité ». Est-ce que Jésus est complètement hors contexte? Est-ce qu'il est complètement hors sujet en disant « Tu es pardonné ». Les amis, il n'est jamais hors contexte. C'est nous qui sommes souvent hors contexte. Mais Christ, là, est en train de montrer le véritable problème qu'il y a dans la vie de cet homme, mais aussi dans la vie de chaque homme. Ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les infirmités, ce ne sont pas les problèmes économiques, ce n'est pas le Covid, et j'en passe. Tout cela ne sont que des conséquences d'un mal bien plus grand. C'est le péché. Le péché, notre incapacité à faire la volonté de Dieu, notre incapacité à être bon par nous-mêmes, notre incapacité à faire ce qui est juste par nous-mêmes. Le problème, c'est le péché. Toutes les souffrances sont enracinées dans la situation de l'homme séparé de Dieu à cause du péché. Nos relations les uns avec les autres, vous avez remarqué, ce n'est pas parfait, à cause du péché. Vous pouvez prendre tous les problèmes de l'humanité, absolument tous les problèmes de l'humanité, leur origine trouve toujours leur raison en Genèse chapitre 3, au moment de la chute d'Adam et Ève. Problème de couple? Regardez Genèse chapitre 3. Problème d'identité? Un thème très actuel en ce moment. Regardez Genèse chapitre 3, où nous voulons choisir à la place de Dieu, écouter notre propre voix plutôt que celle de Dieu qui dit quelle est notre identité. Choisir entre le bien et le mal, Genèse chapitre 3. On vit dans un monde où les valeurs sont complètement renversées et on veut décider pour nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, tout en disant que c'est relatif, que ça peut changer d'une personne à une autre. Le mensonge, Genèse chapitre 3. La lâcheté des fois des hommes dans la famille, regardez Genèse chapitre 3. Jésus est en train de montrer, de pointer du doigt le véritable problème de ce monde, le véritable problème de cet homme, et ce n'est pas son infirmité, c'est le péché. C'est le péché. Et Christ est le bon médecin qui donne la véritable raison, les véritables causes de nos maladies, le péché. Et il n'est pas seulement le bon docteur qui donne le bon diagnostic, mais il est aussi le bon remède, le seul remède, le seul remède pour tous ceux qui viennent à lui, qui placent leur confiance en lui. Et Christ discerne dans la foi de ces hommes qui sont devant lui, il discerne quoi? La foi. Il discerne quoi? Il discerne qu'ils se décentrent d'eux-mêmes pour se concentrer, se centrer sur Christ lui-même. Et Christ a vu son besoin, il a vu que cet homme a besoin du pardon de Dieu. Alors je sais que cette partie-là est souvent une des parties où on se pose des questions, mais Christ voit la foi dans cet homme, est-ce que cet homme a réellement demandé pardon, etc. Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Mais des choses qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce que se passe à ce moment-là, ce que Jésus voit dans la vie de cet homme, parce qu'on pourrait se dire, est-ce que c'était juste la foi d'être guéri, ou est-ce qu'il y avait une foi pour plus? En fait, le contexte de l'époque peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Vous savez, il y avait un adage à l'époque, notamment dit par les scribes et les enseignants, et voilà ce qu'ils disaient. Si on est malade, c'est parce que l'on n'est pas en paix avec Dieu. Et il n'y a pas de guérison à moins d'être en règle avec Dieu. Je vais arrêter, je pense. À moins d'être en règle avec Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Alors on est d'accord, la maladie peut être due à un péché, mais aussi peut être due à autre chose, pas le péché. Vous avez déjà certainement lu le livre de Job qui nous montre que ce n'est pas forcément lié. Ça peut être une cause, mais ça peut être complètement autre chose. Mais ce que je discerne dans ce passage-là, c'est que Christ a vu que cet homme, à cause de son infirmité, a dû se poser des questions sur sa nature, a dû se poser des questions sur sa relation avec Dieu et s'est rendu compte qu'il n'est pas parfait et qu'il a besoin de Dieu. Je vais, pour illustrer ça, je vais prendre un livre. Et qui est-ce qui a déjà lu ce livre? Une personne, deux et demi. Ah, on n'est pas sûr, ok. Je suis désolé, je vais spoiler un petit peu, mais ça va nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, pour faire très très simple, je vais essayer de raccourcir pour vous donner quand même envie de lire le livre. En fait, c'est un homme qui, alors je crois qu'il travaille dans une banque ou dans l'administration, en fait, il se fait arrêter. Mais on ne lui dit absolument pas pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Et on a tout ce cheminement interne, intellectuel, où il va essayer de trouver, de comprendre, mais est-ce que c'est ça? Et en fait, il va trouver des raisons pour lesquelles, potentiellement, il est coupable. C'est intéressant. À une époque où on essaie de dire que nous sommes coupables de rien, eh bien, si on se retrouve dans une situation où on est obligé de réfléchir, en fait, on se rend compte qu'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait être emprisonné, pour lesquelles on pourrait être arrêté. Cet homme, dans son infirmité, dans sa vie, certainement a dû voir des choses dans son cœur que Christ a vues. Son besoin d'être pardonné, d'être en règle avec Dieu. Et Christ voit cette foi de cet homme et de ses amis dans le fait qu'il n'y en a qu'un seul qui peut pardonner. C'est celui qui a annoncé la repentance des péchés dans chapitre 1, dans celui qui a la puissance de délivrer les démons, dans celui qui a la puissance de chasser la maladie. Christ est celui qui donne le pardon à tous ceux qui viennent à lui et qui placent leur confiance entre ses mains à lui. Et nous aspirons tous au fond de nous-mêmes à trouver ce pardon. Mais il n'y a qu'un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Mais maintenant que j'ai dit que Christ pardonne ou qu'il veut pardonner, la question qui vient après c'est, mais est-ce qu'il peut pardonner? Vous savez, moi si vous venez me voir en me disant que vous avez eu plein de contraventions, j'ai envie de vous dire, je retire toutes tes contraventions. Mais votre question ce serait, Harry, tu peux vraiment faire ça? Non, je ne peux pas. En fait, je peux avoir envie de le faire pour vous, mais il faut aussi que je puisse avoir l'autorité, la capacité de le faire. C'est ce que nous allons voir maintenant dans notre deuxième partie. Christ a l'autorité pour pardonner les péchés, versets 6 à 12. Par contre, pas pour les scribes, les enseignants de l'époque qui connaissent la loi, et pour eux, il y a un problème avec Jésus. Et là, Jésus est en train de leur donner la meilleure raison pour pouvoir l'attaquer. Verset 6. Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors, ils ont raison sur le principe. Pour une fois, ils ont raison. Ils ont raison sur le principe. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Ce qui nous rappelle aussi une vérité, c'est que tout péché, même si c'est moi envers vous, au final, c'est Christ. Enfin, c'est Dieu qui est celui qui est offensé et c'est lui qui doit donner le pardon. Donc, quelque part, ils ont raison. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais là, Christ est en train de, pour eux en tout cas, de leur donner les meilleures raisons pour pouvoir l'attaquer parce qu'il l'a, pour eux, il y a un blasphème là. Vous savez, je ne sais pas, peut-être que vous ne le savez pas, il y avait trois grands blasphèmes. Le premier, c'était de dire du mal contre la loi de Dieu. Blasphème. Le deuxième, c'était de dire du mal de Dieu même. Blasphème. Et le troisième, qui était le pire, c'était de se faire Dieu. De se faire Dieu. C'est ce que Christ est en train de dire, que lui peut pardonner, alors qu'il n'y a seulement que Dieu qui peut le faire. Oui, il est en train de dire qu'il a l'autorité de pardonner, une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Et cela pose donc deux problèmes. Jésus peut avoir, comme je le disais tout à l'heure, le désir de pardonner, mais il lui faut le pouvoir de le faire. Et pour avoir le pouvoir de le faire, il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit Dieu. Rien de moi. Mais Jésus montre son autorité et sa divinité dans ce passage. Et déjà, c'est un « in your face », excuse-moi l'expression, il les casse, on va dire ça comme ça, il casse les pharisiens dès qu'il ouvre la bouche en disant quoi ? Qu'il est capable de lire dans les cœurs. Qu'il a discerné exactement ce qui se passe dans le cœur de ces hommes-là, alors que c'est quelque chose que seulement Dieu peut faire. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Je répète ça. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. In your face, je peux lire dans vos cœurs. Et vous êtes tous d'accord pour dire qu'il n'y a que Dieu qui soit capable de faire cela dans vos vies. De la même manière qu'il a vu dans le cœur de cet homme et de ses amis, il est aussi en mesure de voir le cœur de ses scribes, qui normalement devraient être les personnes qui devraient être reconnaissants qu'il soit là. Ceux qui connaissent la loi, ceux qui sont supposés annoncer la loi. Christ est en train de leur dire, je sais ce qu'il y a dans votre cœur. Je sais ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que je suis Dieu. Parce que je suis Dieu. Ensuite, Christ affirme qu'il peut pardonner. Ce qui est aussi un attribut que seul Dieu a. Et dernièrement, il va montrer qu'il a le pouvoir de guérir. Encore une fois, seul Dieu a ce pouvoir. Et dans cette dernière étape, et je vais essayer de m'attarder un peu plus sur cette partie-là, dans cette dernière étape, Jésus va mettre en jeu sa réputation. Au travers d'une question. Donc déjà, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Il révèle ce qu'il y a dans le cœur de ses scribes, et ensuite il va mettre en jeu sa réputation. Lequel est le plus aisé ? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Christ est en train de mettre en jeu toute la réputation qu'il a acquise. Chapitre 1, vous vous souvenez ? Il est en train de tout mettre en jeu sur un événement où il est en train de dire à ses scribes, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus aisé ? De guérir cet homme ou de lui dire qu'il est pardonné ? Alors, ce qui est le plus aisé à dire, parce que dans les deux cas, il n'y a que Dieu qui peut faire un miracle comme ça. Les deux sont difficiles. Mais il est en train de dire, qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Alors, je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autres illustrations. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être nées aux alentours des années 2000. Qui est né autour des années 2000 ? Pas moi, hein, c'est juste un, deux. Ah bon ? Ah, j'aurais pensé beaucoup plus que ça. Alors, qui se souvient de Paco Rabanne ? Ah, quelques-uns. En fait, ça fait quelque temps qu'on ne voit plus son visage. Alors, on continue à voir ses parfums, etc. Mais en fait, Paco Rabanne, autour des années 2000, est devenu très célèbre. Parce que vous vous souvenez pourquoi ? Le bug de l'an 2000. Non, vous n'avez pas vu que cette période-là ? Bon, alors, je vais vous raconter ce qui s'était passé. En 99, on avait annoncé la fin du monde. Voilà, tout simplement. Le bug à cause de l'informatique, parce qu'il ne serait pas en mesure de passer à 2000, parce que l'informatique n'était pas capable de le faire, apparemment. Ou alors, on nous a annoncé les météorites qui allaient tomber. Et en fait, Paco Rabanne avait mis sa réputation en jeu en disant « c'est la fin du monde ». Alors, vous avez dû remarquer, ce n'est pas arrivé. Mais depuis, on ne voit plus Paco Rabanne. Parce qu'il a perdu toute crédibilité. Parce qu'il avait annoncé sur les plateaux télé qu'il avait lu Nostradamus, etc. Et que la fin du monde était pour 1999, précisément. Et ce n'est pas arrivé. Il avait mis en jeu sa réputation, et sa réputation maintenant vaut zéro. Christ est en train de mettre en jeu sa réputation, là. Il est en train de mettre sa réputation ici, maintenant. Mais, il va faire ce qu'il a dit. S'il guérit, alors cela permettra de vérifier qu'il est vraiment celui qu'il dit être. S'il guérit, cela permettra de vérifier qu'il est vraiment Dieu. S'il guérit, cela permettra d'affirmer qu'il peut pardonner les péchés. Et en utilisant cela, il est en train de... Je vais arrêter avec ça. Il est en train de montrer... Parce que qui peut voir le pardon dans le cœur d'un homme? Alors on peut voir les effets au bout d'un certain temps. Mais qu'est-ce qui est plus facile de voir quelqu'un qui était paralytique et qui marche? Je peux le voir immédiatement, maintenant, ou une personne qui est pardonnée. Christ veut dire que si vous voyez cet homme, que vous pouvez vérifier, vous pouvez l'ausculter, vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez regarder ses jambes, vous pouvez tout faire. S'il est vraiment guéri, alors cela veut dire que je suis celui que je dis être. Et si je suis celui que je dis être, alors je peux accorder le pardon aux pécheurs qui viennent à moi. Quelle est la solution à tout ça? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant « Nous n'avons rien vu !» Ils ont vu. Nous n'avons rien vu. Tout pareil. Il est guéri immédiatement. Il n'y a pas de convalescence. Vous vous souvenez quand je me suis fracturé les bras? Il m'a fallu plus de 6 mois juste pour mettre un verre à ma bouche et être à peu près autonome. Là, c'est une guérison qui est totale, vérifiable. C'est vrai. Mais pour moi, le plus notable, ce n'est pas ça. Le plus notable, c'est que dans la guérison de cet homme, je vois une explication du pardon qu'on peut trouver en Jésus-Christ et de la qualité du pardon qu'on peut trouver en Jésus-Christ. Si cette guérison est totale et immédiate, nous avons exactement la même chose dans le pardon en Jésus-Christ. Un pardon total. Passé, présent, futur, immédiat, il n'y a plus rien à faire, il a tout payé, il a tout fait. Voilà notre sécurité. Oui, nous sommes pardonnés, oui, nous sommes réconciliés en Christ avec Dieu une fois pour toutes. De la même manière que cette guérison est vraie, le pardon est vrai également. Parce que Jésus est Dieu. Alors oui, il a le pouvoir de pardonner. Jésus est le pardon. Il est celui dont nous avons besoin. Il est celui qui donne grâce sans mérite personnel de notre part. Il est celui dont nous avons besoin. Souvent dans mes conversations, lorsque je discute avec des non-chrétiens, souvent il y a toujours un peu « Oui, mais en fait vous êtes différent de nous. » Je dis « Non, on n'est pas différent de vous. » On a rencontré quelqu'un qui nous transforme et qui nous a changé. Mais je leur dis, au ciel, vous savez, ce seront des pécheurs pardonnés qui seront là. Le pardon. En enfer, ce seront des pécheurs qui n'auront pas trouvé le pardon en Jésus-Christ. La différence qu'il y aura, c'est est-ce que vous avez trouvé Jésus-Christ pour avoir le pardon pour vos péchés, pour être réconcilié avec lui? Nous n'avons aucun mérite personnel. C'est Christ. Et seulement Christ, qui est le pardon dont nous avons besoin et qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu une fois pour toutes. Si Jésus n'avait pas guéri cet homme, c'était la fin de son ministère. Il aurait été un menteur, un blasphémateur. Les scribes auraient gagné. C'est un charlatan, on vous l'avait bien dit. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas guérir, ni pardonner. Pour la foule qui était là, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir, on vient de voir ses limites. Il n'y a plus rien à voir. Pour les 5 hommes, on a perdu notre temps et en plus de ça, maintenant on est dans l'embarras avec ce toit qui est ouvert et on n'a pas d'espoir pour notre ami. Pour le propriétaire, peut-être Pierre, je pense que c'est Pierre. Qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Tout le monde aurait été dans l'embarras, sauf les scribes qui auraient été heureux et contents. Mais Christ n'a pas échoué. J'aimerais vraiment qu'on garde ça en tête. Christ n'a pas échoué. Christ n'a pas perdu. Christ n'est pas un menteur. Christ n'est pas un blasphémateur. Christ n'est pas un charlatan. Il est Dieu, celui dont nous avions besoin. Le but de tous les miracles, que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité. Pourquoi ? Pour pardonner. Et je voudrais terminer en revenant sur ce que Christ a dit lorsqu'il a dit « Qu'est-ce qui est le plus aisé ?» De dire de guérir ou de pardonner. Je crois qu'il y avait une chose qui était très difficile. C'était de pardonner. Parce que pour pardonner, il fallait aller à la croix. Amusez-vous à regarder tous les miracles de Jésus. Il parle, c'est réglé. À distance ou pas. En fait, il est tellement puissant qu'il fait ce qu'il veut. Par contre, pour pardonner, il n'a pas claqué des doigts. Il est allé à la croix. Il a livré son sang. Il a subi la colère de Dieu pour nous. Et nous n'aurions jamais pu avoir le pardon des péchés sans la croix. Sans la croix. Et il fallait que Christ aille à la croix pour vous, pour moi, pour toi. Peut-être qu'il te pose des questions aujourd'hui, qu'il te dit « J'ai été invité ici aujourd'hui et si j'apprends quelque chose sur Jésus, super !» Voilà ce qu'il faut retenir. C'est que pour nous accorder le pardon, il fallait qu'il aille à la croix. Mais merci Seigneur, il est allé à la croix. Il n'a pas flanché. Il n'a pas décidé de rentrer à la maison. Il est allé jusqu'au bout. Et il a subi la colère de Dieu. Celle que nous aurions dû subir, il l'a prise à son compte. Pour une simple chose, que nous ayons l'assurance que nous sommes pardonnés en lui. Je vous invite à prier. Seigneur, je te remercie parce que tu, ton fils, n'est pas Paco Rabanne. Merci. Blague à part, Seigneur, on veut juste te dire merci. Moi, j'étais tellement reconnaissant au travers des chants, des témoignages qu'on a entendus et qui pointent vers une seule chose, ton fils Jésus-Christ et son œuvre à la croix pour nous. Seigneur, merci parce qu'en découvrant Jésus-Christ, nous n'avons pas rencontré quelqu'un qui fait des miracles. Merci, c'est déjà extraordinaire. Quelqu'un qui chasse les démons, oui, merci, c'est extraordinaire. Qui chasse la maladie, qui peut le faire. Il ne nous a jamais promis de le faire pour nous, mais il peut le faire. Mais ce qu'il nous a promis sur facture, Seigneur, ce qu'il nous a promis, assuré, c'est qu'en lui, par son sacrifice, nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Voilà le véritable problème du cœur de l'homme. Nous sommes pardonnés. Pardonner. Voilà ce qui nous permet d'être réconciliés avec ton cœur. Et on l'a chanté, ce que nous désirons, c'est un cœur à cœur. Et ce cœur à cœur, nous ne pouvons pas le vivre sans ton pardon, sans être réconciliés avec toi. Mais maintenant, dans ton pardon, nous pouvons vivre ce cœur avec toi et pour toujours. Voilà notre joie, voilà notre sécurité et voilà ce que nous voulons annoncer. Seigneur, fais de cette église une église qui ressemble à ces quatre hommes qui, malgré les difficultés, malgré les circonstances, veulent voir Jésus, veulent que leur ami soit au pied de Jésus. Fais de nous, Seigneur, des hommes comme ça, des hommes et des femmes comme ça qui désiront voir le royaume de Dieu avancer dans notre pays et dans le cœur de ceux qui nous entourent. Et tout cela pour toi, ta gloire et ta gloire seule, afin que nous soyons dans l'étonnement, la joie, et te glorifier, en sachant que un jour tu viendras pour que nous soyons avec toi et que nous pourrons te glorifier sans fin pour ton pardon. Amen.